si vous le voulez bien, on va regarder quelques-unes de ces prophéties. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on a ce livre de méditation sur la période de Noël, sur la bonne nouvelle d'une grande joie, qui est un dévotionnel, un livre que vous pouvez lire un passage par jour. Il y a un passage pour chacun des jours. Le 1er décembre, c'était le véritable Père Noël. Et il était question qu'en fait, on pouvait voir le Père Noël un peu partout, même dans notre pays cartésien. Ceux qui vendent des Père Noël sur des échelles de corde doivent faire fortune. L'INSEE a fait un reportage sur Métro, qui a été publié, au moins en ligne, où elle a pris des photos d'une douzaine de Père Noël qui grimpent sur les bâtiments dans la ville de Nice. Et puis le deuxième passage, pour le 2 décembre, nous dit qu'il a été parfaitement annoncé par des prophéties. Dieu a annoncé la venue de son Fils, du Messie, parfaitement par des prophéties. Et donc nous allons regarder quelques-unes de ces prophéties en voyant l'annonce et en voyant la réalisation, ou ce qu'on appelle des fois l'accomplissement. Souvent dans la Bible, il y a des prophéties qui ont une réalisation immédiate ou très proche, et puis qui ont une réalisation plus lointaine. Ça peut être des réalisations qui se sont produites à la première venue de Jésus, ça peut être pour les prophéties encore à accomplir, ça peut être à la fin des temps. Mais, par exemple, on va commencer, le Messie devait naître d'une vierge. Ça, c'est dans Ésaïe 7,14. Si vous voulez vous y tourner, si vous avez du mal à vous retrouver, je vais indiquer les pages de ces passages dans la Bible à la colombe. La Bible à la colombe, vous pouvez en demander une copie, si ça vous aide à, ou vous pouvez simplement écouter, mais sachez que vous pouvez noter ces textes et les vérifier si vous êtes sceptique, si vous en doutez un peu. Le Messie devait naître d'une vierge. Ésaïe, page 675. Merci de... Ésaïe 7, pardon, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, on sait que ça veut dire Dieu avec nous. Cette prophétie avait un rapport avec l'époque de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Il a eu un enfant par sa femme, qui à l'époque était encore vierge. Mais on voit la réalisation dans Matthieu. Donc Matthieu, on va y revenir souvent, c'est l'évangile qui a été écrit par ce disciple de Jésus, Matthieu, pour montrer aux Juifs que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Et dans Matthieu, au chapitre 1, donc c'est la première page du Nouveau Testament, donc à droite vous cherchez des chiffres qui recommencent, et c'est la première page, il est dit, au verset 20, comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, verset 21, elle enfantera un fils et tu le donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Certains disent qu'en fait, l'histoire de la Vierge, ça ne veut pas dire qu'elle était vraiment vierge au sens où elle n'avait pas eu de relation physique. Mais le mot dans le texte d'Ésaïe, c'est un mot qui est toujours utilisé pour une femme qui n'a pas eu de relation avec un homme. Et ça devait être un signe. Et en fait, là aussi, c'est un signe parce que avoir un enfant sans avoir de relation sexuelle, c'est pas habituel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là, c'était ce première prophétie s'est réalisée. Vous vous souvenez aussi dans l'Ancien Testament, tout au début, dans la Genèse, si vous voulez vous tourner avec moi dans Genèse 12, c'est page 11 de l'Ancien Testament, Genèse 12, 1 à 3, page 11. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le verset suivant nous dit qu'il avait déjà 75 ans. Et donc la promesse était faite à un vieil homme de 75 ans qui n'avait pas encore d'enfant, qu'il allait devenir le père d'une grande nation et que par lui et sa progéniture, par ses enfants, il y aurait des bénédictions pour toutes les familles de la terre. Au verset 7, il est dit « L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays », parlant du pays d'Israël, de la Palestine, « je donnerai ce pays à ta descendance ». Paul, dans Galates 3,16, fait remarquer que descendance, c'est au singulier. Et qu'en fait, Dieu, lorsqu'il fait cette prophétie à Abraham, il lui dit qu'il va y avoir un Messie, un descendant qui va bénir toutes les nations de la terre. Pas seulement Israël, mais tous les peuples. Et quand on ouvre le Nouveau Testament, Matthieu 1, le premier verset, il est question de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on voit une généalogie qui commence par Abraham et qui, personne par personne, va descendre jusqu'à Joseph, verset 16, qui est l'époux de Marie par lequel va arriver le Messie. Et l'Ancien Testament nous dit que ce Messie qui va bénir toutes les nations, toute la terre, tous les peuples, juifs et non-juifs, il va descendre d'Abraham. Et le Nouveau Testament nous dit qu'il est bien arrivé et qu'il est vraiment un descendant d'Abraham. Le Messie, il est dit qu'il sera aussi un descendant de Judas. Judas, c'était un des fils de Jacob. Si vous regardez la Genèse, page 554 de l'Ancien Testament, c'est la Genèse, chapitre 49, verset 10. Jacob est sur son lit de mort et il donne des bénédictions prophétiques. Il fait des prophéties et il dit que au verset 10, le bâton de commandement, le sceptre, on pourrait dire comme un sceptre royal, ne s'écartera pas de Judas, ce fils de Jacob, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'était un titre un peu mystérieux, cryptique, qui désignait le Messie. C'était celui dont c'est le droit. C'est ça ce que ça voulait dire en hébreu. Celui dont c'est le droit, sous-entendu celui dont c'est le droit de régner, justement, c'est le juste héritier. Autrement dit, ça parlait de celui qui allait être oint, celui qui allait recevoir l'onction, celui qui allait être le Messie, viendra de la tribu de Juda. Dans Luc 3, 33, page 67 dans le Nouveau Testament, il y a une autre généalogie de Jésus-Christ. Et là, au verset 33, il est question d'un certain Amminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Hetsron, fils de Pérès, fils de Juda. Et on voit que dans cette généalogie, il y a ce Juda qui est donc dans la postérité de Jésus, du Messie. Il est dit aussi que le Messie va descendre de David. Si vous vous souvenez, on l'avait vu dans 2 Samuel, c'est page 319 de la Bible. 2 Samuel 7, versets 12 et 13. David était un peu gêné, il s'était construit une belle maison et il réalisait qu'en fait Dieu était habité dans la tente de la rencontre. Il faisait du camping alors que lui avait une belle villa, une belle maison. Il avait eu à cœur il en avait parlé avec le prophète Nathan, de bâtir un temple, de bâtir une maison en dur pour Dieu. Et en fait, la réponse de Dieu, ça avait été que lui ne pouvait pas construire cette maison parce qu'il avait fait la guerre, il avait les mains pleines de sang. Et Dieu lui annonce qu'en fait, quand tes jours, verset 12, quand tes jours seront accomplis, c'est-à-dire quand tu seras mort, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Là, il parlait d'abord du descendant de David, le roi Salomon, et on sait que Salomon a bâti le temple. Mais lorsqu'il est question d'affermir pour toujours son trône royal, on comprend qu'il ne s'agit plus de Salomon, mais du descendant, du Messie, et donc le Messie allait descendre de David. Quand il dit « j'affermirai pour toujours son trône », c'est pour dire que le trône du Messie sera pour toujours affermi, que le Messie va régner pour toujours. On sait que le royaume de Salomon n'a pas duré, puisqu'il a été divisé à la mort de roi Salomon, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Je vous renvoie à l'étude que nous avons faite sur les chroniques. Et donc, on voit qu'en fait, la promesse de la lignée, de passer d'Abraham, de Juda à David, ça s'est bien réalisé. Dans Jérémie 33, page 781, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie les versets 14 et 16. Page 781. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice, il pratiquera le droit et la justice dans ce pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et dans les deux généalogies qu'on trouve au début du Nouveau Testament, dans celle de Matthieu, on voit la lignée d'Abraham à David à Joseph, qui montre qu'en fait, par Joseph, il a le droit d'être roi. Et dans la généalogie de Luc, qui, elle, se réfère à Abraham jusqu'à David, jusqu'à Marie, on voit qu'il va avoir ce sang royal et qu'il va être encore une fois une bénédiction. Et dans Luc 1, 32, page 66 dans le Nouveau Testament. C'est l'ange qui parle à Marie, qui lui dit « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Cette prophétie que le Messie allait s'inscrire dans la lignée d'Abraham, de David, est accompli à la naissance de Jésus. Une autre prophétie, c'est que il allait naître à Bethléem. En hébreu, pour ceux qui ont étudié un peu l'hébreu, Beth, c'est la maison. Et Lehem, c'est le pain. Il est dit dans le prophète Michée. C'est les petits prophètes, c'est page 918 de l'Ancien Testament, prophète Michée, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Et donc là, encore, il est question de ce Messie qui est avec Dieu, qui est Dieu, ça c'est Jean qui nous le dira. Et il allait naître dans la ville de Bethléem Ephrata. La Bible n'est pas écrite au hasard, elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Et s'il y a cette précision de Bethléem Ephrata, c'est parce qu'en fait il y avait une autre ville qui s'appelait Bethléem et qui elle se trouvait en Galilée du Nord. Mais dans Matthieu, juste un peu plus loin, vous pouvez aller voir Matthieu 2 versets 1 à 6. Jésus était né à Bethléem en Judée, donc c'est la Bethléem Ephrata dont il est question dans le prophète Michée. Au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, Ephrata, ou terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Cette prophétie s'est réalisée à la lettre. L'Ancien Testament fait allusion aussi au fait que Jésus vient, le Seigneur viendrait d'Égypte. Dans le prophète Osée, c'est aussi un des petits prophètes, page 897, verset 1 du chapitre 11. Une prophétie, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il devait naître en Égypte et non pas à Bethléem ? Non. Encore une fois, si on revient à Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, « Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc, cette prophétie va être réalisée parce que le roi Hérode va vouloir supprimer tous les enfants de moins de 2 ans, 2 ans et moins, dans l'espoir d'éliminer cet homme qui doit régner sur le territoire sur lequel il règne. Et donc, cette prophétie s'accomplit encore une fois parfaitement. Et ça nous montre que l'auteur de l'Ancien Testament ne peut être que celui qui connaît le futur. Ça ne peut être que Dieu. Une autre prophétie, c'est que le Messie allait être annoncé par un messager. La vie de Jésus sur terre, ça a été de vivre dans l'incognito, sans être remarqué tellement, et d'être enfin annoncé par un prophète. Ça, c'était le prophète Ésaïe, chapitre 40, si vous voulez voir la page 707, versets 3 à 5. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ça, c'était quelque chose qui se faisait habituellement lorsqu'on recevait un haut dignitaire, un roi, un empereur. On préparait le terrain. Et aujourd'hui encore, si on sait que le président de la République va arriver à Nice, on va nettoyer les rues, on va préparer la salle, on va la décorer. L'idée, c'était de faire une route plate, large, qui ne pose aucun problème. Mais bien sûr, on voit qu'il est aussi question de préparer notre cœur. Les vallées où on descend, c'est souvent une marque du péché dans lequel nous tombons. Les montagnes, les collines, ça peut être une image aussi de notre orgueil, de notre sentiment d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et là, ce ministère, ça va être celui d'une voix qui crie dans le désert. Et on sait dans Matthieu, encore une fois, dans Jean aussi, on en a parlé dans l'étude de Jean le vendredi soir. Matthieu 3, versets 1 à 3. « En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et là, encore une fois, le Nouveau Testament nous montre que c'est un accomplissement d'une prophétie. Verset 3, c'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » On voit cette prophétie que le Messie allait être précédé par quelqu'un qui allait l'annoncer comme un crieur public. Elle s'est réalisé à la lettre. Jean-Baptiste, c'est la réalisation de cet homme qui était prédit dans l'Ancien Testament. Une autre prophétie qui s'est passée aussi avec la période de Noël, on vient d'en parler, mais il est bon de remarquer que c'est annoncé dans Jérémie 31, c'est le meurtre des enfants. Jérémie 31, 15, ainsi parle l'Éternel, on entend, c'est page 776 dans l'Ancien Testament, dans la Bible à la colombe. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils, elle refuse d'être consolée sur ses fils car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux car il y aura un salaire pour tes actions, oracle de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, oracle de l'Éternel. Historiquement, à l'époque proche de Jérémie, ça faisait allusion au massacre des enfants des Juifs lors de l'invasion des Babyloniens. Encore une fois, c'est cette réalité proche. Mais plus loin, c'est la prophétie dont nous avons parlé en lisant Matthieu 2, 16 à 18, Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tous les enfants, tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Le meurtre des enfants avait été prophétisé des centaines d'années à l'avance, et là, il est réalisé à la période où arrive Jésus, à la période de Noël. Une autre prophétie, c'est qu'il allait être le Messie. Le Messie, c'était celui qui avait reçu l'onction, qu'il allait être oint par l'Esprit Saint. Dans Ésaïe 11, 2, page 680, il est question, au chapitre 11, au verset 2, ou même 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il allait être oint par l'Éternel. » Dans Ésaïe 61, page 730, un peu plus loin, versets 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui l'accomplira, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour donner de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser comme mettre un pansement sur ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, leur libération, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Ça s'est réalisé dans Matthieu 3, 16, page 3 dans le Nouveau Testament. « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu, parlant de Jean-Baptiste, qui descendait comme une colombe et qui vint sur lui, l'Esprit de Dieu. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit de Dieu promis pour le Messie qui allait venir arrive sur Jésus. » Dans le livre des Actes, au chapitre 10, page 146, Pierre parle du Seigneur en disant, verset 38, 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Là, on s'éloigne de Noël, mais toute la vie de Jésus va accomplir ses prophéties à la lettre. Alors, on pourrait continuer, parler de... Je vais juste peut-être les noter, le fait qu'il est un prêtre selon l'ordre de Melchizedek, qui veut dire le roi de justice. Ça, c'était dans la Genèse 14-17. C'est réalisé dans Hébreux 7-17. Il devait avoir un ministère auprès des non-juifs. On l'a vu dans Ésaïe 8-23, 9-1. Il parle des païens qui allaient voir une lumière. Matthieu 4-12 et 16 nous dit que il est venu vraiment pour tous les hommes. Et que, il est question d'un peuple assis dans les ténèbres qui a vu une grande lumière. Le peuple assis dans les ténèbres, c'était les païens, les nations qui ont vu la lumière de Noël. Il nous a dit qu'il allait être une pierre d'achoppement qui allait poser un problème. C'est dans Ésaïe 8, 14, c'est réalisé dans 1 Pierre 2, 8, qu'il allait être rejeté par les Juifs, qu'il allait être comme une pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est le psaume 118, 22. Dans Matthieu 21, 42, il nous est dit, c'est exactement ce qui s'est passé, qu'à avant son sacrifice, il arrive, allait arriver sur un âne. Ça, c'est dans le petit prophète Zacharie 9:9. Dans Matthieu 21, 1 à 5, il arrive sur un ânon à Jérusalem, qu'il allait être trahi par un ami avant sa mort. C'est le psaume 41, 10. Et c'est réalisé dans Jean 13, 18, 19, ou dans Matthieu 26, 50, qu'il va être trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, 12 et 13, c'est réalisé dans Matthieu 26, 14, pas 29 pièces d'argent, pas 31, mais 30 pièces d'argent. Entre parenthèses, c'était le prix que l'on devait payer pour un esclave qui avait été éventré par un bœuf. Ça, c'est Exode 21, 32. Autrement dit, on donnait pas cher de Jésus, on l'a trahi pour seulement 30 pièces d'argent, on le méprisait comme si c'était un esclave qui avait été un esclave à moitié mort, qui avait déjà été éventré par un bœuf. Il nous est prédit qu'il allait être silencieux comme un agneau. Ça, c'est dans Ésaïe 53, le grand passage prophétique de l'agneau sacrifié pour nos péchés. Ça, c'est réalisé dans Matthieu 27. Il n'a pas ouvert la bouche lorsque Ponce Pilate lui a demandé des explications. Il était prédit que ses mains et ses pieds soient percés. Ça, c'était dans Zacharie 12, 10, dans le psaume 22, 17. Ça a été accompli dans Luc 24, 39. Ses mains, lorsqu'il a été ressuscité, il a montré à ses disciples ses mains et ses pieds pour leur montrer qu'ils avaient bien été percés. Il allait être abreuvé de vinaigre, c'est dans le psaume 69, 22. Et on sait que sur la croix, on lui a passé une éponge remplie de vinaigre, de fiel, Matthieu 27, 3. Il a été abandonné, psaume 22, le grand psaume messianique. C'est annoncé dans Matthieu 27, 46. Ses vêtements allaient être déchirés, c'est dans le psaume 22. Dans Jean 19, on voit que les soldats romains déchirent ses vêtements pour les jouer au dé. Il est prédit qu'aucun de ses os ne serait brisé. Pour être un agneau parfait, sans tache, il fallait pas que ses os soient brisés. C'est dans le psaume 34, dans Jean 19, c'est réalisé verset 36, qu'il allait être mis à mort, qu'il allait mourir avec des pécheurs, des transgresseurs. Ésaïe 53 nous en parle, verset 9, qu'il allait mourir avec des transgresseurs. Matthieu 27, 38 nous raconte qu'il est mort entre deux brigands, qu'il allait être enterré par un riche, Ésaïe 53, 9. Dans Matthieu 27, 57, on sait que c'est le riche Joseph d'Arimathée qui va le prendre dans sa tombe, qu'il allait ressusciter, psaume 16, 10, c'est accompli dans Matthieu 28, 6. Qu'il allait être assis, qu'il allait monter aux cieux, l'ascension, et se retrouver assis à la droite du Père. C'est le psaume 110, 1. C'est indiqué comme réalisé dans Hébreux 1, 3. Et on pourrait multiplier et multiplier. Et je vous invite, lorsque vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau, de voir les réalisations. C'est là que c'est bien d'avoir une Bible d'étude, ou simplement, même dans une Bible simple, il y a souvent des références, des notes, et de réaliser tout ça, c'est pas par hasard. Et encore une fois, c'est pas des hommes qui se sont dit on va faire des prophéties, puis on va dire qu'elles s'accomplissent. Et c'est là qu'en fait, même si la foi n'est pas l'aboutissement d'une équation, on voit que les mathématiques nous donnent toutes les raisons de croire dans la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui aiment les maths. En général, soit on aime, soit on déteste. soit on est littéraire, soit on ne veut pas entendre parler de maths. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une loi mathématique qui s'appelle la loi des probabilités composées. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire d'équation au tableau. Mais on va regarder un peu ce principe en se disant, disons en moyenne, alors on va prendre des moyennes qui ne sont peut-être pas exactes scientifiquement, mais c'est juste pour simplifier les choses, on va dire qu'en général, une personne sur 10 est chauve. Je crois que c'est moins, surtout parmi les jeunes. Et la question, s'il y a une personne sur 10 qui est chauve, combien de personnes prises au hasard dans la rue je dois aligner contre un mur pour espérer avoir une personne chauve? Combien? 10. Si en moyenne, on prend 10 personnes au hasard, il y a une personne qui est chauve, si je veux retrouver devant le mur une personne chauve au moins, en moyenne, je dois prendre 10 personnes. Si je les prends vraiment au hasard, dans tous les âges, dans tous les groupes d'âge, etc., je devrais trouver une personne qui est chauve. Disons qu'il y a une personne sur 10 qui porte des lunettes. Si je veux aligner des personnes avec l'espoir de trouver une personne qui est à la fois chauve et qui porte des lunettes, il faut que j'en prenne 10 fois 10. Je dois en prendre 100. Pourquoi ? Parce que parmi ces 100 personnes, on devrait en avoir une sur 10, donc 10 qui soient chauves, et j'ai des chances que parmi les 10 chauves, il y en ait une qui porte aussi des lunettes. Vous me suivez ? Maintenant, disons qu'une personne sur 10 est gaucher ou gauchère. Un homme ou une femme sur 10 est gaucher. Combien d'hommes pris au hasard, d'hommes ou femmes, faut-il que j'aille chercher dans la rue, à Nice Étoile, pour espérer trouver contre le mur un chauve binoclard et gaucher? Un chauve qui porte des lunettes et qui et le réflexe d'attraper quelque chose avec la main gauche si on lui lance quelque chose par surprise. Nous avons besoin cette fois-ci de 10 fois 10 fois 10, 1000 personnes. Parce que dans ces 1000 personnes au hasard, on devrait trouver, une personne sur 10, 100 chauves. Parmi ces 100 chauves, on devrait trouver 10%, une personne sur 100, sur 10, pardon, on devrait trouver 10 personnes qui portent des lunettes. Et parmi ces 10 personnes qui resteront, je devrais avoir une chance, normalement, d'en trouver une qui est gauchère. Et donc, pour trouver une personne qui remplit ces trois conditions, il faut 10 fois 10 fois 10, il faut 1000 personnes. Et donc, il devient rapidement évident, même si vous n'êtes pas très matheux ou que vous n'aimez pas les maths et encore moins le calcul des probabilités, qu'à chaque fois, il faut multiplier, si on ajoute une condition supplémentaire, il faut multiplier le nombre d'hommes, de personnes prises au hasard pour trouver une personne qui réalise toutes ces conditions avec la dernière condition par un facteur qui correspond à la probabilité que cette dernière condition se réalise. Tout ça pour dire que plus on donne de détails et plus ça devient impossible que ce soit fait, qu'on trouve une personne au hasard qui satisfasse ces conditions. Alors, quand on regarde Jésus-Christ et qu'on dise « Oh, en fait, c'est quelqu'un qui a réalisé ses prophéties au hasard », on s'aperçoit en fait qu'il y a peu de chances que ce soit vraiment dû au hasard. On a dit par exemple qu'il devait naître d'une vierge. Ça c'est déjà pas évident, hein. Ça c'est, il y en a pas beaucoup. Mais parlons plutôt du fait qu'il est né à Bethléem. Bethléem à l'époque c'était une ville qui on peut connaître à peu près la population. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui sont nés à Bethléem ? Est-ce qu'il y en a ? c'est déjà assez rare. Disons qu'il y ait peut-être une chance sur 10 000 en fonction de la population à l'époque. Et donc, il va falloir trouver cette personne. Et puis, pour que cette personne arrive, soit trahie par un ami, là aussi, il va falloir dire combien de chances en général est-ce qu'il y a une personne, on a d'être trahi par un ami. Là aussi, ce n'est pas très scientifique, mais disons que si c'est 1 sur 1000 et que la probabilité de naître à Bethléem, c'était aussi 1 sur 10 000, maintenant, la probabilité d'être à la fois né à Bethléem et d'être trahi par un ami, c'est 1 sur 10 000 par 1000. C'est 1 sur 10 millions. Quand on ajoute les conditions, et on a vu qu'elles avaient été réalisées en Jésus-Christ, il y a des matheux qui se régalent là, les ingénieurs écossais, qui font ça comme ils respirent. On s'aperçoit qu'en fait, la probabilité que les choses se passent en prenant une personne au hasard, qu'elle remplisse ses conditions, elle devient rapidement très, 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 très faible. Il y a un dénommé Peter Stoner qui était prof de maths en Angleterre et qui a décidé justement d'essayer de voir un peu les probabilités de Noël. Et donc il a pris certaines des prophéties dont nous avons parlé. On en a cité un bon nombre. Et il a publié ça dans les années 70. Et il a dit, on va prendre simplement 8 prophéties. Le lieu de naissance, la fête que ce soit une naissance d'une vierge, qu'il ait été trahi, que son supplice ce soit la croix, que ses vêtements soient partagés, qu'on perce son corps, qu'on l'enterre dans la tombe d'un riche, etc. Il a pris 8 prophéties et en attribuant une probabilité à chacun de ces événements et en multipliant ces probabilités, il arrivait que pour qu'une personne prise au hasard dans l'histoire de l'humanité satisfasse ces 8 prophéties, ça équivalait à prendre une personne sur 10 à la puissance 17. C'est-à-dire 1 que multiplie 10, 10 plutôt que multiplie 1 que multiplie 10 suivi de 17 zéros. Une chance sur 17 à la puissance 10. Ça ne nous parle pas. Mais si vous imaginez que vous prenez des pièces de 2 euros en France et vous avez les moyens, vous allez en Allemagne, vous ramassez toutes les pièces de 2 euros qui traînent en Europe et notamment en Allemagne, et vous en avez assez pour recouvrir la France, le territoire français, sur une hauteur de 50 centimètres. Et puis, vous prenez une de ces pièces sans le dire à personne et vous mettez une croix rouge au marqueur sur la pièce de 2 euros et vous la remettez dans la pile partout en France. 50 centimètres de pièces de 2 euros sur tout le territoire. Vous prenez un volontaire, vous l'amenez, vous le mettez dans un hélicoptère et vous lui dites « Maintenant, tu te poses où tu veux et tu vas prendre une seule pièce ». Et on va voir si tu tombes sur la pièce avec la croix rouge. Le gars part dans son hélicoptère, il se demande où il doit atterrir. Finalement, il dit, bon, on va se poser là. Il creuse un peu, il prend une pièce. La probabilité que cette pièce soit la pièce avec la croix rouge, c'est l'équivalent de 1 sur 10 à la puissance 17 à peu près. Autrement dit, ça vous donne une idée de l'impossibilité que Jésus soit l'homme par hasard, pris au hasard, qui remplisse seulement 8 des prophéties. Si on passe maintenant, au lieu de dire 8 prophéties, ce professeur a, avec ses étudiants, on dit on va prendre 17 prophéties. À ce moment-là, la chance de qu'une personne au hasard remplisse 17 prophéties qui ont été accomplies par Jésus, c'est 1 sur 10 à la puissance 32. 1 sur 10 suivi de 32 zéros. Pour 48 prophéties, c'est 1 sur 10 suivi de 156 zéros. En physique, lorsqu'un événement a une probabilité d'arriver qui est inférieure à 1 sur 10 à la puissance 50, 1 sur 10 suivi de 50 zéros, on considère ça comme impossible. Quand il y a 48 prophéties, j'ai dit c'est 1 sur 10 à la puissance 156, 156 zéros. Autrement dit, ça c'est seulement pour 48 prophéties. Je vous ai fait une liste peut-être un peu longue et je vous ai peut-être perdu, mais c'était pour vous montrer que toute la Bible est replète de ces prophéties. Il y en a eu plus de 300 réalisées avec la première venue de Jésus. Si Dieu voulait parler à des gens rationnels pour leur montrer que sa parole est la vérité, il n'aurait pas fait autrement. Autrement dit, nous n'avons aucune raison de douter de la vérité de la parole de Dieu. Ça doit être quelque chose qui nous remplit d'une assurance et devant toutes les incertitudes de la vie, on a cette certitude mathématique que Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas arrivé par hasard pour dire « Ouais, je suis né à Bethléem, ouais. Et puis il y a sans doute quelques personnes qui sont nées à Bethléem qui ont été trahies par des amis. Maintenant, Bethléem, c'est en territoire palestinien. Je suis sûr que si on allait là-bas, on pourrait trouver des gens qui ont été trahis par leurs amis. Déjà, que ce soit pour un montant de 30, je sais pas quelle est l'unité de monnaie là-bas en ce moment, ça serait des shekels ou des rials ou peu importe. Ça, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, à Noël, alors on sait que Noël s'est pas passé le 25 décembre, que c'est l'empereur Constantin de Rome qui a fait que, par syncrétisme, pour pas changer les choses, il a dit on va célébrer la naissance de Jésus à l'époque où on célèbre le retour de la lumière. C'est merveilleux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les jours rallongent depuis hier ou deux jours, depuis le solstice d'hiver. Je déprime des fois le 21 juin parce que je me dis, ça y est, les jours vont commencer à raccourcir. Mais maintenant, vous pouvez vous réjouir, les jours commencent à rallonger. Et donc, il a choisi de célébrer cette fête. Peu importe, mais Jésus a accompli les prophéties. Et il va les accomplir. Nous pouvons lui confier notre vie. Nous pouvons mettre entièrement notre vie entre ses mains. Ça, c'est aussi le cadeau de Noël. Jésus est venu, on en parlera encore un peu mardi soir. On montrera une autre dimension brièvement. Mais sachez que vous pouvez avoir complètement confiance dans la parole de Dieu. Et plus vous l'étudiez, plus vous voyez que c'est pas n'importe quoi. C'est pas de la prophétie maya qui est prouvée fausse juste le jour même. Amen. Prions. Seigneur, tu vois combien nous sommes heureux de pouvoir te faire confiance. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous aider intellectuellement, Seigneur, à réaliser que tu es vraiment le Messie prédit, prophétisé par les Écritures et que tu es bienvenu après coup, après que ces prophéties aient été prononcées des centaines d'années, presque des millénaires avant, Seigneur, que tu es venu et tu es bien le Messie. Tu es bien Jésus, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver. Seigneur, nous voulons que tu fortifies notre foi, Seigneur. Que toutes les promesses que nous trouvons dans ta parole, nous les prenions comme des oui et des amen. Que nous ne doutions jamais, Seigneur, de ta parole, de ton amour pour nous. Seigneur, aide-nous à transmettre cette absolue confiance, cette absolue assurance à tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Aide-nous même à parler de probabilité, de chauve, de binoclard, pour montrer qu'il n'y a pas de hasard, Seigneur. tu es vraiment qui tu es. La parole déclare que tu es, Seigneur, et nous voulons te faire entièrement confiance. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui n'avaient jamais vu les choses comme ça, qui ont toujours pensé que, oui, Jésus, c'était gentil, c'est le petit enfant dans la crèche. Si vous voyez maintenant qu'il est vraiment le Dieu-homme prédit dans l'Ancien Testament, prédit dans les tas de versets de l'Ancien Testament, de toute la Bible, et que vous voulez venir à lui, vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement dire dans votre cœur, Seigneur, je reconnais que tu es bien le Messie, loin de Dieu, envoyé pour sauver les hommes. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. Je suis un pécheur. Je pense à moi, je suis égoïste, je fais des choses dont j'ai honte, des pensées dont j'ai honte, Seigneur, et je te demande pardon. Et Seigneur, je viens à toi pour que, dans la repentance, en regrettant, en te demandant pardon, et Seigneur, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Je veux être sauvé par lui, lui qui est mort à ma place. Je veux être au bénéfice de cet immense sacrifice d'amour attesté par les prophéties. Oui, Seigneur, je te demande pardon et je reçois le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur. Je te demande de venir changer ma vie, de me remplir de ton Esprit Saint. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Noël. Si vous avez fait cette prière pendant que nous sommes encore dans le recueillement, je vous demanderai juste de lever la main pour que je puisse prier pour vous. C'est la plus grande décision que vous puissiez prendre. Ouvrez vos cœurs à lui. Il est dans une ligue complètement différente. Il est la vérité, il est le sauveur, il est celui qui aime vos âmes au point de mourir. Seigneur, nous te remettons ce temps de Noël. Te demandons de continuer à toucher nos cœurs, à nous remplir d'assurance que toute ta parole est la vérité, Seigneur. Que nous pouvons lui faire confiance et te remettre nos vies, te suivre, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, dans notre église, dans les églises de la ville. Sois béni, Seigneur, pour Noël. Prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.